Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors on espère que vous allez bien ce dimanche matin. Aujourd'hui, il y a toute l'équipe, Axel, Rémi, Pierrick, Fred qui vous parle. Et on accueille aussi une invitée, Sam, qui va venir agrémenter l'émission.
Alors, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Donc c'est l'épisode 58 de l'Étoile Polaire. Concernant le podcast de l'émission, hein, sur le site rdwa.fr, vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on a enregistrées depuis le départ. En ce moment, le site est en reconstruction. Enfin, on change les bases de données, on change le site. Donc en fait, là, les archives ne sont pas disponibles, sauf les émissions depuis le mois de décembre. Voilà, et puis celles qui vont venir. Donc si vous nous cherchez sur le site de RDIWA dans les émissions thématiques, l'étoile polaire, soyez pas étonnés de ne trouver que les émissions les plus récentes. Alors on vous rappelle aussi que vous pouvez nous contacter par le mail astro-rdwa@protonmail.com si vous avez envie de nous faire part de vos remarques ou si vous avez envie aussi de venir discuter astronomie avec nous à l'antenne. Voilà pour cette petite introduction. Alors, le sommaire de cet épisode. D'abord, ben, comme d'habitude, le ciel ce soir. Hein, qu'est-ce qu'on peut observer en ce moment quand on lève les yeux le soir tombé? Ensuite, ce sera la chronique spatiale de Pierrick. Avec donc cette fois un thème sur les combinaisons spatiales, les space suits.
Ouais, on va regarder ça un peu. Ouais.
On va parler mode.
Exactement, de couches culottes.
Voilà. Ensuite, ce sera donc Sam. Donc Sam, elle fait du slam. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée dans l'émission. En particulier, là, elle a un slam en fait, avec tout un vocabulaire astronomique, stellaire, cosmique. Donc ça nous a donné envie en fait, de l'inviter pour qu'elle nous le fasse en direct. Et puis voilà, donc vous allez pouvoir découvrir ça tout à l'heure. Ensuite, après la pause musicale, je ferai un point d'astro en fait de vocabulaire, hein, un peu à l'ancienne, hein, grand 1, petit 1, petit 2, vocabulaire, où j'expliquerai un petit peu les termes que Sam utilise dans son texte. Et ce sera la fin de l'émission. Voilà pour ce sommaire. Alors, on va commencer par le ciel ce soir, et cette fois, c'est toi, Rémi, qui va nous faire profiter de ton regard.
Et oui, le ciel ce soir, du coup, en cette huitième semaine de 2024, le soleil gagne du terrain. C'est-à-dire qu'on est à quatre semaines de l'équinoxe de printemps. Le soleil se couche de plus en plus tard, se rapproche de l'ouest à grands pas. Il se couche à 18h20 pour se lever vers 7h30 le matin. Voilà, la nuit tombée, on est encore dans un ciel d'hiver avec les constellations emblématiques d'hiver, avec notamment les Pléiades au méridien à la tombée de la nuit, dans la constellation du Taureau, avec l'étoile majeure Aldébaran. Et on retrouve les constellations d'hiver avec ces étoiles brillantes comme Sirius dans le Grand Chien, Procyon. Petit chien, on a toujours la constellation d'Orion, bien sûr, quasiment au sud, elle aussi, à la tombée de la nuit. On a le lion qui se lève tout gentiment au coucher de soleil et qu'on voit apparaître durant toute la nuit.
Les Gémeaux.
Les Gémeaux, bien sûr, ouais, avec Castor et Pollux. Le cocher avec Capella. Voilà, on est encore dans le ciel d'hiver, bien qu'au cours de la nuit, comme les nuits sont encore longues, on a le droit quand même à une belle transition avec notamment le lever du ciel d'été qui se passe au petit matin.
Ah ouais, on a Arcturus qui se lève voilà. Tard. Enfin,
Arcturus, Bouvier. Spica, ouais. La Vierge, on a voilà, la Lyre avec Vega.
Et tu parlais des Pléiades, il y a eu quelques jours un rapprochement de la Lune et des Pléiades aussi, je ne sais pas si vous avez pu l'observer.
Ouais, mais c'était nuageux, on l'avait annoncé à l'émission précédente,
ah oui,
c'était le 16 février.
J'allais dire, t'en avais parlé.
Et j'ai regardé, et en fait ce soir-là c'était nuage, ça a été invisible.
Il y avait une conjonction, ouais, Lune-Pléiade. Ouais. Et d'ailleurs la pleine Lune a été là le samedi 24, et il est annoncé une éclipse de Lune là, pour le 25 mars.
Total.
Ouais, ce qui se dit, 97%.
Ah ouais.
Après,
ouais.
Dans l'hémisphère nord, je ne saurais pas dire si c'est vraiment côté Europe ou côté américain. Il faut se renseigner un peu là-dessus, mais c'est annoncé. La Lune sera dans la pénombre de la Terre pendant un moment.
Et oui, c'est ça. C'est un des moments où c'est un peu aligné, puisqu'il y a une éclipse de soleil qui est prévue dans quelques semaines au Canada. Mm. Pas du tout visible de chez nous, mais en tout cas, voilà, ça montre que ces trois astres, ces trois corps sont alignés en ce moment.
Et après, concernant les planètes, on a quasiment perdu Saturne, hein, qui se rapproche du Soleil à grands pas. Jupiter, qui est à l'ouest toujours. Mm. Au coucher de soleil, qui va se coucher vers minuit.
Toujours bien brillante. Hein.
Ouais, assez brillante. Et au petit matin, Vénus qui se rapproche aussi rapidement du soleil, là, cette période. Et on a une conjonction de Vénus et Mars en ce moment qui sont très proches, qu'on peut voir une petite demi-heure avant le lever de soleil vers 7 heures le matin, quoi. À l'horizon, hein, il faut avoir un ciel dégagé. Voilà, à peu près pour l'actualité du ciel en ce moment.
On peut rajouter qu'on a toujours cet effet-là sur les constellations de circumpolaire Grand Ours et Cassiopée, où elles sont vraiment inversées par rapport à l'été. Mm. Et où on se retrouve encore dans cette période où la Grand Ours est en forme de point d'interrogation.
Elle se dresse verticalement,
ouais.
C'est magnifique. Ça, puis c'est assez intéressant, le ciel du Nord, là, la Deneb qui va se coucher à minuit. À l'horizon pour se relever à 22h, pardon, pour se relever à minuit.
C'est ça, le ciel d'été, il fait presque en fait, parce que tu le vois, tu as une fin de ciel d'été au coucher du soleil.
On voit se coucher.
Et en fait, tu le vois réapparaître au petit matin, donc il fait le tour, quoi.
Ouais. Avec la Voie lactée qui apparaît à ses côtés.
Ok. Eh bien, merci. On va continuer cette émission avec la chronique spatiale. Alors, Pierrick, cette fois, les combinaisons. C'est sûr que c'est un sacré... Enfin, c'est bien central, quand même, dans le spatial, quoi, la combinaison.
Et ouais, c'est quand même un espèce de mini-vaisseau spatial portatif de vêtements. Et donc, l'espace est un environnement hostile. Hein. L'être humain ne peut pas y survivre dedans. S'il sortirait nu dans l'espace, sa durée de vie serait de même pas une minute, je crois.
Ouais.
Tu deviens aveugle en un instant. Faut savoir que dans l'espace, en tout cas dans l'espace proche de la Terre, tu passes de 150 degrés au soleil à l'ombre moins 120 degrés en un instant. Donc, c'est pas un endroit où il fait bon vivre.
Non,
on a envie d'aller se promener comme ça. Donc, l'être humain a inventé des vêtements pour aller dans cet espace. Et donc, il y a eu plein de... Au début de l'aviation, il y a eu beaucoup de... Il y a eu des essais de combinaisons. Au début de l'aviation, donc, comme ils allaient en l'air, ils avaient froid. Donc, ils ont développé plein de choses. Notamment, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des espèces de petits tuyaux d'eau qui couraient sur tout le corps, avec de l'eau tempérée dedans pour permettre au corps de maintenir sa température.
C'est des distils. Des distils Fremen, hein, tu vois, pas dans Dune, les petites combinaisons qu'ils ont dans le désert, qui recyclent entièrement leur eau, tout ressort dans un petit tuyau.
Ok. Et bah ouais, c'est le même genre. Donc ça existe toujours, c'est toujours, ils font toujours ça dans les combinaisons spatiales, pour permettre au corps de se réguler entre le plus 150 et le moins 120. Et il y en a même un dans les années 30, donc un peu avant la Seconde Guerre mondiale. C'est Wiley Post. Il voulait parcourir une grande distance en avion. Et pour ce faire, il devait aller très haut dans l'atmosphère et prendre des courants d'air très haut dans l'atmosphère. Du coup, il allait avoir très froid. Du coup, il a eu l'idée de récupérer les gaz d'échappement de son moteur et de se les faire courir autour du corps pour se réchauffer. Trouver ça. En plus, le mec, il était borgne, il voyait que d'un œil. Du coup, ils lui ont fait une combinaison avec un hublot pas central, mais décalé sur le côté. C'est assez étonnant comme truc. Donc voilà, il a participé à créer ces combinaisons. Après, il y a eu les X-15. Ça, je sais pas si vous voyez, dans les années 60, sur les B-52. Les B-52, c'est les énormes avions.
Les bombardiers
de la zone de guerre. Ils ont eu la bonne idée de mettre des espèces de mini-fusées qui étaient larguées sous les ailes et qui faisaient des petits vols suborbitaux, donc à la limite de l'atmosphère et de l'espace. Mmh. Et là, pareil, ils ont commencé à développer des combinaisons où tu peux respirer de l'air normal. Et voilà. Et après, donc, à quoi sert cette combinaison ? Donc à maintenir un taux d'oxygène pour pouvoir respirer, à maintenir une pression aussi.
Et oui.
Parce que la pression, c'est une atmosphère sur Terre. Dans l'espace, il n'y a pas de pression. Donc il faut pouvoir maintenir cette pression. Mais le fait d'avoir cette pression à l'intérieur de la combinaison, ça la rend rigide. Puisque comme dehors, il n'y a pas de pression, ça fait un truc hyper rigide. Donc en fait, c'est le problème qui est survenu à Alexei Leonov, le premier qui a fait une sortie, le premier russe à faire une sortie extravéhiculaire en combinaison. Et au bout de quelques minutes, sa combinaison est devenue hyper rigide et il ne pouvait plus bouger un bras, un doigt. Il était comme un bibendum, là, comme un bonhomme Michelin, complètement fixe.
Dans un cercueil.
Un peu, ouais.
À 400 km d'altitude.
Ouais. Il s'en est bien sorti, mais il a dû avoir peur.
Ouais.
Et voilà, ça sert à maintenir donc, la température, un taux d'humidité. Ça sert à protéger des micro-météorites qu'il peut y avoir, ça sert à protéger de la lumière, du soleil qui te rend aveugle instantanément. Voilà, toutes ces choses, plein de couches en fait ont été mises en place.
Les radiations aussi quand même, un minimum quoi.
Tout à fait, ouais. Et il faut savoir qu'il y a 14 couches dans ces combinaisons. Donc la plus aboutie et qui reste encore d'actualité, en fait, c'est la A7L. C'est la combinaison développée pour la mission Apollo sur la Lune. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore de combinaison pour des sorties comme ça, longues. Mmh. Et donc, ils sont allés développer ça. Et pour ce faire, ils sont allés voir des fabricants de lingerie féminine surtout, parce qu'ils avaient la technologie de faire des choses en caoutchouc, en latex, avec du mouvement.
Oui, ok.
Tu vois. Et par exemple, le truc tout con, mais les espèces d'accordéons au niveau des endroits de mouvement du corps.
Ouais, des coudes, par exemple.
Des coudes, ouais. Des genoux, voilà. C'était développé à ce moment-là. Et ces combinaisons, dans les années 60-70, elles étaient cousues main. C'était des couturières qui cousaient ça à la main avec des machines. Il y avait un contrôle hyper strict parce que évidemment s'il y a un point qui est mal fait, dans l'espace,
il y a une vie en jeu quoi.
Voilà, donc il y a toute une histoire là-dessus au niveau des entreprises sélectionnées, etc. C'est assez intéressant. Et du coup donc voilà, ça c'était la base des combinaisons. Donc après, évidemment, les Russes, les Américains, ils ont développé chacun leur propre combinaison. Et alors, pour les Américains, ils ont développé une autre combinaison un peu après le programme Apollo dans les années 80 qui s'appelle l'EMU et qui c'est toujours la même, qui est en activité. Donc elle est assez vieille. Elle est de 0,3 atmosphères pour l'utiliser et ça demande un temps de préparation de 4 heures. Donc c'est assez long en fait pour la mettre en place. Il faut te préparer 4 heures avant pour respirer de l'oxygène pur, etc. Ça demande tout un temps assez long. La combinaison russe Orlan, elle est de 0,4 atmosphère. Et là, c'est une petite heure de préparation. C'est un peu plus léger. En gros, c'est le temps qu'il faut pour l'enfiler. Pour l'enfiler, il faut être deux. Il faut qu'il y ait une autre personne qui t'aide à l'enfiler. Faut savoir que ces combinaisons, elles coûtent dans les 10 millions de dollars. C'est un petit bijou technologique. Elles sont toutes sur roulement à billes, articulation et même dans les gants. C'est que des petits roulements, que des axes qui tournent autour de comme un vélo quoi, parce que pour fluidifier les mouvements. Et donc, la combinaison, elle est toujours un peu la même. Il n'y a que les gants. Chaque gant est sur mesure, est fait pour l'astronaute. Et donc, avec cette combinaison, ils ont aussi un espèce de sac à dos, là, où dedans il y a tout le, l'oxygène, une batterie,
toute la machinerie.
Toute la machinerie, ouais. Et dedans il y a aussi un petit propulseur. Au cas où tu casses ton câble quand tu répares la, la station et que tu t'en vas dans l'espace, tu as une petite propulsion pour revenir. Et ça me fait penser, vous avez tous vu ces images de mecs en fauteuil en train de se déplacer dans l'espace là avec des...
Oui. Une photo fameuse.
Ouais, ouais.
L'astronaute qui est assez éloigné.
Ouais. Bah, c'était à cette époque, c'était les années 80-90, mais en fait ça, c'était difficile à manœuvrer, c'était assez compliqué, ils s'en ont pas servi beaucoup.
Ouais.
Mais quand même, c'est un peu mythique comme truc, je trouve. L'image du mec dans son fauteuil en train de faire bzz, bzz. C'est assez chouette. Et donc dans ces sacs à dos, voilà, il y a tout ce qui est contrôle de l'environnement, l'oxygène. Alors il y a un filtre à l'hydroxyde de lithium pour filtrer le CO2. Et garder que l'oxygène quand tu respires, recycler ton... l'air que tu sors de ton corps. Et il faut savoir que les missions, elles durent entre 6 et 8 heures quand tu pars en sortie extravéhiculaire. Donc c'est long, c'est assez long. Et donc tu peux boire, tu peux pas manger, tu peux faire pipi et caca dans une couche. En fait, ils ont des espèces de capotes. Les hommes en tout cas et les femmes, c'est un peu différent, mais et avec un réservoir où tu peux faire pipi dedans. Voilà, donc ça doit être quand même ça doit être assez quand tu sors de ça, je pense que t'es rincé.
T'as fait 4 fois le tour de la Terre.
Ouais. Et voilà, il y a un truc qui est sympa, c'est le sublimateur. C'est la machine qui sert à récupérer toute l'eau de condensation que tu transpires pendant que tu bouges avec ta combinaison et qui permet qu'elle s'évapore dans l'espace. Donc ça se sublime en gaz. Voilà.
Ah oui.
Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, alors ça, voilà, les combinaisons, elles sont de technologies assez anciennes, donc des années 80-90. Et là, ils sont en train d'en développer des nouvelles. Donc voilà, le mouvement est encore plus fluide, les durées d'autonomie se rallongent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour éviter d'avoir à rentrer dans le vaisseau avec la combinaison qui est assez encombrante, ils sont en train de se dire que ça serait bien si elles étaient... que tu pouvais rentrer dans la combinaison par l'arrière. Et c'est comme si la combinaison t'arrivait, tu reculais contre le vaisseau, clac, tu t'amarrais au vaisseau, et là en reculant tu rentres dans le vaisseau. Ça veut dire que la combinaison elle est toujours un peu à l'extérieur du vaisseau.
Okay.
Un espèce ils sont en train d'étudier ça pour gagner, pour pas qu'il y ait plein de poussière qui rentre, notamment sur la Lune. Il y a la régolithe qui est hyper fine et qui va partout dans les câblages et tout. Alors pour éviter ça, ils se sont dit que ce serait bien qu'elle reste dehors. Voilà, c'est assez étonnant. Et voilà ce que j'avais à dire sur les combinaisons, les spacesuits.
Ok, merci Pierrick.
Plaisir.
On va continuer cette fois avec notre invité, donc Sam. Donc bienvenue.
Merci.
Donc toi Sam, tu fais du slam. Tu as l'habitude d'être sur les scènes slam et voilà, de proposer tes textes et de les dire sur scène. Donc parmi ce que tu fais, qui est assez... tu as différentes thématiques, tu as ce texte-là en particulier qui reprend tout un tas de termes d'astronomie. Donc c'est celui que tu es venu... interprété ici. La question que je te pose, c'est comment t'es arrivé en fait à écrire ce texte-là.
Alors j'ai écrit ce texte-là particulièrement parce que un ami à moi qui s'appelle Marc Bonomo, qui se trouve être professeur d'astronomie et de physique, organisait chez lui une soirée à l'occasion d'une éclipse. Il me semble que c'était en 2015. Et donc pour honorer son invitation, j'ai écrit un texte sur sa thématique.
Donc est-ce que toi, avant ça, tu avais déjà une connaissance en fait, de tous ces termes, du ciel, de l'astronomie, ou c'était plus l'occasion de plonger dedans ?
Ah non, c'était vraiment une occasion de me frotter à un vocabulaire particulier. Et puis il y a aussi... j'ai un rapport avec la Lune assez, comme tout le monde, assez assez commun, j'imagine. C'est un astre que j'aime beaucoup, mais je ne m'étais jamais particulièrement intéressé à cette discipline. Enfin, ouais. Je ne sais pas si ça, tu peux dire ça comme ça. Du coup, ça a été vraiment l'occasion d'apprendre plein de choses et puis de m'amuser avec les mots, puisque c'est quand même ce que j'aime faire le plus.
Et du coup, comment tu as procédé, en fait? Parce que tous ces termes, en fait, ils ont vraiment des significations qui sont pas évidentes. Enfin, je veux dire, par exemple, si on parle de géante rouge, bon, ok, c'est gros, c'est rouge, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une géante rouge? Donc, toi, t'as quand même, il a fallu que tu...
T'as eu pas mal de recherches. Quand
même. Comment t'es allé chercher, en fait? Quand t'as trouvé tous ces mots? T'as pris un ouvrage d'astronomie, t'as regardé ce qui sortait ou,
Bah, j'ai, grosso modo, en fait, j'avais la thématique et l'éclipse. Il y avait ce que ça m'évoquait, en fait, personnellement. Et puis, du coup, j'ai passé des heures et des heures et des heures à lire un tas de choses, sur Internet notamment. Tu regardes un mot, tu t'intéresses à une notion, et puis du coup, tu vas chercher un autre mot.
Ouais.
Et puis, tu fais des allers-retours entre... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je procède en général. Je fais des allers-retours entre ce que les définitions m'offrent. Donc, on va dire une définition assez... je ne sais pas si je te donne un exemple... l'albédo, la capacité à réfléchir. Mmh. Et après, je vais me le réapproprier, si je puis dire.
Ok. Eh bien, écoute, on va se taire et on va t'écouter dans ton slam. Alors, du coup, on enchaînera directement avec la pause musicale. Cette semaine, c'est un morceau de Ponty qui s'appelle le Cosmic Messenger. Voilà. Sam, l'antenne est à toi.
J'ai beau avoir les pieds sur terre, j'ai la tête dans les nuages, et puis les yeux dans les étoiles, et le cœur en bandoulière. J'ai beau avoir les pieds sur terre, et bien que je ne sois que de passage, je sais en moi, dedans ma moelle, toutes les matières de l'univers. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je suis poète. Et pour autant, sur cette terre, parmi les hommes, je suis petit grain de silice dans le système solaire, artefact insolent en satellite solitaire, parenthèse fermée à l'équilibre social, astéroïde excentrique, à la cosmologie générale. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je suis inapte à fructifier le capital. Je ne rêve pas d'ascension droite, mais je me drape de chaque aurore. Tout azimut, la céphéide que je suis gagne ses heures à deviner son écliptique. Car j'ai beau avoir les pieds sur terre, mon âme se veut mue de lumière. Alors je flotte au gré des vents interstellaires. J'oscille entre naines blanches et géantes rouges. Je rebondis sur les trous noirs et les orbites qu'ont adopté mes congénères qui, pour se tenir au chaud, s'alignent en constellations identifiées. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je ne saurais être conventionné. Je soigne mon albédo, ma capacité à réfléchir. Bon an, mal an, j'érupte mes protubérances et je travaille ma densité. Je me fais masse et interroge ma gravité. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je suis toujours en limite de roche. Je m'en enquille bien des parsecs, je fraye. De nébuleuse en nébuleuse, me fait comète et météore, explore le spectre de mes possibles vibrations. J'ai beau avoir les pieds sur terre, mon corps n'est jamais qu'en location. Ceinturé par Van Allen, je quête ma périhélie pour définir mes horizons et patiner mon lot d'atomes. Je flirte la rupture et fréquente les nus à remettre en question les consensus primaux. Boulot, 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 être efficace, être productif, ramener de l'oseille, palper de l'artiche. Non. Moi, petit grain de réglisse dans le système solaire, je refuse l'hypothèque et de mon âme et de mes membres. Et d'équinoxe en équinoxe, je cherche à faire la mise au point pour maintenir mon équilibre. Acrobate sur corde à nœud, ascendance du point vernal, jume la vie de toutes mes fibres. La grange n'a qu'à bien se tenir. Tout ça pour dire que j'ai beau avoir les pieds sur terre, tous les jours je rêve d'alunir. au cœur de météorites qui sont pareilles à mon image, auréolées d'un feu sacré. Almicantara énergétique, je cherche au cœur de mes semblables la magnitude absolue. Je tête aux sources de voies lactées, de photosphères en phase gibbeuse. Je guette le ressac des marées et me stimule le Kelvin. J'ai beau avoir les pieds sur terre, j'ai faim du feu qui nous sublime. Depuis que nous mange la clepsydre, ces champs de bougies que notre condition, on brille, on brûle, puis on s'éclipse sans qu'on en sache la raison. Ce qui nous chauffe et nous abîme quand on se regarde dans les yeux, c'est le Big Bang qui s'illumine au sein de nos corps frêles et creux. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je glane des étoiles dans vos yeux. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je glane des étoiles dans vos yeux.
Thank you.
Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur. Alors, vous avez pu entendre le slam de Sam. Merci à toi pour ça.
Merci pour l'invitation.
Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est reprendre un peu tous ces termes, tous ces mots qu'elle utilise. Et puis, en expliquer certains. Alors, j'avoue que pour moi aussi, hein, ça a été l'occasion d'apprendre des trucs. Parce que même si tous les mots, je les avais entendus, sauf un, d'ailleurs, on n'a qu'à commencer par celui-là, Almicantara. Almicantara, oui, là, celui-là, aussi, ouais. C'est la première fois, je ne savais pas. Et donc, un Almicantara, en fait, c'est un petit cercle de la sphère céleste. C'est-à-dire, vous imaginez une boule, et puis vous prenez un petit cercle qui fait le tour, mais qui ne passe pas par le centre.
Ah oui, d'accord.
Oui, comme une petite, si vous preniez une tranche, en fait.
Oui, ouais, c'est ça. Si on prend une pêche, par exemple. Oui. On orbite autour du noyau de la pêche, ouais. Si on prend vraiment la circonférence la plus grande, mm-hmm. Et là, ça serait un cercle
c'est
plus
ça,
haut, quoi,
ouais. C'est ça.
Qui n'a pas donc, pour centre.
C'est pour ça que ça s'appelle aussi un cercle de hauteur.
Ah oui, ok. Ouais.
Ou un petit cercle, parce que ça prend pas tout le rayon en fait possible.
Non.
C'est ça, un Almicantara. Ah, bon, le mot est joli, mais
pourrait pas.
Jamais entendu.
Ouais, non, moi non plus. Mais en même temps, bon, oui, on ne pourrait pas orbiter à cet endroit-là,
non.
Sur un Almicantara.
Impossible, non, c'est pas. Oui. Bah, si, ou alors au réacteur, en fait. Quoi.
Ah oui, oui, avec le réacteur toujours allumé. Oui, ouais, ouais.
C'est ça. Ouais. Oui, non, ce n'est pas stable du tout comme orbite.
Ah oui, mais c'est OK, marrant.
voilà. Alors, du coup, oui, je disais, tous les autres mots, je les connaissais, mais certains étaient peut-être un peu moins clairs dans ma tête. Et puis, il y a eu quand même aussi quelques petites découvertes. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça. Alors, ces mots, je ne vais pas les prendre dans l'ordre du texte. Je les prends, en fait, un peu, je les ai rangés un petit peu par thème. Et on pourrait commencer avec les deux premiers, qui sont Big Bang et cosmologie. Et j'avais envie de m'arrêter déjà un peu là-dessus. Donc, cosmologie, c'est l'étude du cosmos, on va dire. Mais plus précisément, en astrophysique, on parle de cosmologie pour l'étude, on va dire, de l'univers à grande échelle. On parle de cosmologie quand on commence à regarder les structures de galaxies, les choses comme ça. Et le Big Bang, bon, voilà, c'est un mot qui aussi est très, très employé. Donc, j'avais envie de rappeler brièvement ce que le Big Bang, en fait, le gros de la théorie, c'est de dire qu'au départ, on a une énorme quantité d'énergie qui est condensée en une zone extrêmement réduite de l'univers et que l'univers explose. Donc, c'est la trame de l'espace-temps. Hein, donc, ce n'est pas une vraie explosion, mais bon, voilà, on transpose. Et en fait, il est au départ cet univers uniquement composé de rayonnement. Et à mesure qu'il va en fait être en expansion, cette énergie en fait va se retrouver toujours la même quantité d'énergie, mais dans une zone de plus en plus grande, et donc va se diluer. Et donc l'univers va ce qu'on appelle se refroidir. Et cette lumière là, en fait, ces particules là vont commencer à se transformer. Voilà, cette lumière va se transformer en matière en fait. Et c'est un peu ça l'histoire du Big Bang. Et de là vont être créés tous les premiers éléments. L'hydrogène en particulier et l'hélium, et qui sont les plus grands constituants les plus représentés dans l'univers. Voilà, donc c'est ça la théorie du Big Bang. C'est un petit rappel, quand même, vite fait. Tu parles d'atomes, hein, ces atomes créés dans le Big Bang, et ensuite tu parles aussi de nébuleuses. Donc là, on arrive à l'idée de nuages de gaz. Hein. Une fois que ces atomes ont été créés, eh bien, ils forment ces grands nuages de gaz qui dérivent dans l'espace et qui vont donner naissance aux étoiles en s'effondrant sur eux-mêmes. Donc là, on rentre dans une autre catégorie de mots. Tu utilises géante rouge, naine blanche, protubérance, photosphère, vents interstellaires. Donc là, on est vraiment dans le domaine des étoiles en tant que tel. Là, je vous renvoie un petit peu justement aux trois dernières émissions, en particulier à celle de fin décembre, où j'avais justement reparlé encore d'évolution stellaire et du fait en fait que le Soleil et toutes les étoiles du même type, à la fin de leur vie, au bout de plusieurs milliards d'années, eh bien, deviennent des géantes rouges. Donc c'est ce qui arrivera au Soleil, hein, qui va ensuite qui va s'étendre jusqu'à au-delà de l'orbite de Mars et englober toutes les planètes telluriques dont la nôtre et les détruire et expulser en fait comme ça une partie de sa matière avant de se recontracter pour finir en naine blanche. Donc là, on parle de vie et mort des étoiles. On a ensuite le mot protubérance et photosphère. Alors photosphère, c'est la couche de gaz d'une étoile d'où sont émis les photons qui s'échappent de l'étoile. Parce qu'en fait, la lumière, c'est jamais le même photon qui du cœur de l'étoile où l'énergie va être émise par les processus de fusion. En fait, cette énergie, elle est expulsée, mais en fait, elle est transférée de proche en proche. Quoi. Et c'est pas le même photon qui est émis au centre, en fait, qui va être éjecté dans l'espace. Donc, il y a une zone d'où partent les photons, et c'est ce qu'on appelle la photosphère. Et en fait, c'est parce que c'est ce qu'on voit, en fait. Vu que c'est de là que viennent les photons, c'est de là qu'est émis la lumière, donc on a l'impression que l'énergie, elle vient de là. C'est ça, la photosphère d'une étoile. Et les protubérances, bon, ça, on l'a tous plus ou moins déjà observé, des expulsions comme ça, des jets de matière, des jets de plasma ionisé, comme le fait le Soleil. Déjà, je pense tous plus ou moins vu ces images assez belles d'éruptions solaires, quoi. Et alors, tu parles aussi des céphéides. Alors là, j'avais envie de détailler un petit peu parce que c'est une catégorie d'étoiles qui sont vraiment extrêmement importantes en fait en astronomie. Les céphéides, c'est des grosses étoiles variables et qui ont la particularité d'avoir un lien entre la période de variation et leur luminosité réelle. Donc c'est ça les céphéides. Ça a été découvert par Henrietta Leavitt et ensuite confirmé et acté par Arlo Chapelet. D'ailleurs, il me semble que Amandine en avait parlé quand elle avait fait ses émissions là sur les contributions des femmes aux sciences, parce que Henrietta Leavitt, en fait, c'est réellement elle qui a découvert le truc.
Non, c'est moi. Du coup, je veux bien que tu m'éclaires sur la variabilité d'étoiles. En quoi elle est variable ?
Son éclat.
Ok, d'accord.
Elle brille beaucoup, puis peu.
Okay.
Enfin, plus ou moins.
Et en fait, avec une période sinusoïdale très régulière. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on mesure ce type d'étoile, si tu mesures sa période, et ben tu trouves du coup sa luminosité réelle. Donc, si tu trouves sa luminosité réelle, toi, tu l'observes et tu mesures sa luminosité apparente. Et en fait, la différence entre les deux, ça donne la distance. Puisque tu sais comment elle brille pour de vrai, tu vois l'éclat avec tu le vois, et du coup, tu en déduis à quelle distance elle est. Et donc, en fait, la découverte de cette relation entre la période et la luminosité, ça a permis de mesurer plein de distances de façon assez précise, en tout cas dans la galaxie. Mais même, ils arrivent à choper des céphéides dans d'autres galaxies.
C'est avec ça que Hubble, en 1924, dans d'autres galaxies, il a vu ces étoiles.
C'est vrai.
Et c'est là que ses calculs ont montré que ces galaxies se trouvaient, à l'époque c'était des nébuleuses, ces nébuleuses se trouvaient à des millions d'années-lumière. Ouais. Et là, il s'est dit, mais non, des millions d'années-lumière, c'est bizarre, toutes les autres étoiles, c'est des milliers. Et là, on passe à des millions, et c'est là qu'il s'est dit, en fait, il n'y a pas qu'une galaxie, la nôtre, il y en a plein.
Ouais. Donc ça a conduit vraiment, en fait, cette découverte-là sur les céphéides, elle a conduit à tout un tas de découvertes vraiment majeures, mais dont l'expansion de l'univers, etc., quoi, en tout cas de façon observationnelle. Donc voilà, j'avais envie de re-mentionner un peu cette catégorie très particulière d'étoiles que sont les céphéides. Et d'ailleurs, en recherchant ça, je me suis rendu compte que l'étoile polaire était une céphéide,
oui,
mais qu'elle avait, pour le coup, elle était extrêmement bizarre. Et que, en fait, jusqu'en 1994, ils se sont dit pas de problème, c'est une céphéide, bon, elle est un peu chelou dans son rythme, mais ça va. Et là, en fait, en 1994, elle a arrêté de varier.
Ah oui.
Et ils n'en ont aucune idée de pourquoi. Et apparemment, elle aurait recommencé un petit peu, mais en fait, l'étoile polaire est une céphéide extrêmement bizarre. Okay. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. Alors.
J'aime bien, comme ça, que tu lances des choses, comme ça, tu peux créer des vocations de chercheurs derrière.
C'est ça.
Peut-être un jour un prix Nobel grâce à ça.
Donc ensuite, tu parles de constellations. Hein. Enfin, on en parle suffisamment dans cette émission. Tu parles de voie lactée, sans pour autant prononcer le mot galaxie, si je m'abuse.
Le mot galaxie.
Ouais, le mot galaxie, lui, n'apparaît pas. Alors voilà un peu pour ces thématiques, une première partie des thèmes que tu abordes. Ensuite, il y a la phase gibbeuse. Donc là, on parle de la Lune. Là, j'avoue que pour moi, j'étais complètement dans les choux quand j'ai vu la vraie définition. La phase gibbeuse, en fait, c'est toute la phase de la Lune où plus de la moitié est éclairée. Mmh. Donc, c'est-à-dire la fin du premier quartier et puis le début du... Enfin, autour de la pleine Lune, en fait.
Mmh. Ouais, c'est ça. Entre les quartiers.
Une semaine avant et une semaine après, quoi.
Gibbeuse croissante.
C'est ça. Gibbeuse croissante et gibbeuse décroissante.
Exactement. On peut l'utiliser aussi, du coup, pour Vénus, par exemple, ou Mercure. Oui. Mercure, c'est plus dur à observer.
Bah, tout ce qui a des phases, quoi.
Mais sur Vénus, en tout cas, ouais, on peut parler de Vénus gibbeuse ou pas.
Tout ce qui a des phases. Voilà pour tout ça. Alors ensuite, on va passer... Il y avait quoi? Oui, il y avait un paquet de termes de physique, vraiment, qui s'apporte à la physique en tant que science. Donc déjà, tu parles du Kelvin. Donc je rappelle, le Kelvin, c'est une échelle c'est une unité de température, et c'est celle qu'on utilise en physique et qui en fait est reliée à l'agitation vraiment des particules. Donc le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés Celsius. Ça veut dire qu'on ne peut pas descendre en dessous. C'est impossible qu'il fasse moins 300 degrés. Par exemple, ça n'existe pas. Donc, moins 273, en fait, c'est la température qu'on n'a jamais atteinte, le 0 Kelvin, oui, où en fait, il n'y a plus aucun mouvement nulle part. Il n'y a plus aucune particule qui bouge, bon, ce qui est impossible, même à l'échelle microscopique, hein, on entend à l'échelle atomique. Donc ça n'arrive jamais. Mais c'est ça, en tout cas, le Kelvin. Tu parles ensuite pas mal de masse, de densité. Alors, juste rappel, la densité, c'est... en fait, c'est le rapport de la masse volumique d'un corps par rapport à celle de l'eau, en fait. Donc la masse volumique, c'est on divise la masse par le volume. Donc voilà, bah, par exemple pour l'eau, c'est 1 gramme pour 1 centimètre cube. Mais pour le fer, ça va être beaucoup plus. Tout ce qui est moins dense va flotter. Et le rapport entre les deux, c'est la densité. Mais en tout cas, on prend toujours cette référence qui est l'eau. Tu parles aussi de magnitude. Ouais, bah, je l'ai évoqué, magnitude et magnitude absolue par rapport au céphéide aussi. La magnitude absolue, c'est ce qu'on disait, c'est la luminosité réelle, intrinsèque réelle de l'étoile. Alors que sa magnitude, c'est la luminosité que nous, sous laquelle nous on la voit compte tenu de la distance à laquelle elle se trouve.
Exactement, je crois que la magnitude absolue, c'est la brillance d'un corps donné, d'une étoile. À 10 parsecs,
ouais,
de nous.
Effectivement, chose comme ça. Il y a une définition comme
si on ramenait toutes les étoiles, oui, à la même distance, oui, certaines brilleraient plus que d'autres.
D'ailleurs,
c'est là qu'on parle de magnitude absolue.
D'ailleurs, il y a parsec aussi.
Ah oui.
Donc parsec, là aussi, c'est assez rigolo, parce que bon, la définition, c'est un parsec, c'est 3,26 années-lumière. Ça, c'est la définition moderne, mais la définition historique, en fait, parsec, ça veut dire parallaxe seconde. Et en fait, c'était défini comme la distance à laquelle on voit la distance de une unité astronomique sous un angle de 1 degré, de une seconde d'arc, en fait. Donc voilà, on imagine cette distance de une unité astronomique. Il faut être à quelle distance pour la voir sous un angle de une seconde d'arc. C'était ça la définition du parsec à l'époque.
C'est toujours ça,
vous
je crois.
Vous m'avez perdu.
Non, c'est plus, ah ouais, ça. Parce que,
c'est la conversion.
C'est 3,26 années-lumière, ah, okay, ouais. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est dû à des histoires de précision, en fait. C'est-à-dire que définir une unité astronomique, je pense que la définition de l'unité astronomique et sa mesure a dû changer. Je ne sais pas. J'ai vu que cette définition, en tout cas, n'avait plus cours. C'était là. Ça, c'est la def historique.
Mmh, okay.
Parsec, on l'utilise peu comme...
Si, ça dépend en mégaparsec, etc. Si, ça s'utilise, en fait.
C'est
ça,
la plus grande, ouais, unité qui existe, quoi.
Oui, mais c'est vrai que sur un rapport 3, par rapport, ouais, à la, ouais, lumière, voilà, ça n'a pas un intérêt majeur. Ouais. Tu vois.
Non, mais c'est mathématiquement que c'est intéressant. C'est plus facile à travailler en parsec qu'en année-lumière.
Je pense
lumière,
que ça dépend.
Parce que, par exemple, l'année-lumière, on la décline en plus petit, en seconde lumière, en minute lumière, des choses comme ça, mais jamais plus haut. On parle jamais de siècle lumière, de millénaire lumière, alors qu'on peut parler de mégaparsec, de kiloparsec, de gigaparsec, ainsi de suite. Et puis, c'est deux approches aussi différentes pour définir une distance. Il y en a une qui est très mathématique, l'année-lumière. La lumière mettant de temps, en un an, la lumière s'est déplacée d'autant, c'est une année-lumière, ça c'est assez mathématique. Et puis, le parsec, c'est plus géométrique, plus visuel, en fait, puisqu'on observe une étoile et on mesure sa parallaxe 6 mois plus tard, on prend une mesure, 6 mois plus tard, on reprend une mesure, on voit de combien ça s'est décalé. Si ça s'est décalé d'une seconde, elle est à 1 parsec.
Ah oui, d'accord, ah oui.
Si elle s'est décalée de 3 secondes d'arc,
oui, mais
elle
c'est
est
ça,
à 3
mais en fait, j'allais dire, le parsec, c'est vraiment une unité aussi qui est très utilisée en astrométrie ou dans des trucs comme ça. Ouais. Donc mais ça dépend de quoi tu parles, en fait.
Ben, je crois que quand même dans les publication scientifique, on parle de, très rarement en années-lumière. On parle beaucoup en parsec.
Ouais, c'est...
Quand je lis la littérature scientifique, c'est en parsec quand même.
J'ai l'impression que c'est peut-être aussi des préférences de la part de certains chercheurs qui aiment plus ou moins... Peut-être. Mais bon, en tout cas, les deux sont c'est l'équivalent, quoi. C'est la même unité, au final, c'est pareil, quoi.
En tout cas, dans Star Wars, parce que j'aime bien bâcher Star Wars de temps en temps, ils n'ont pas dû avoir un très bon conscience scientifique, parce qu'à un moment, ils parlent de ça, du parsec. Ils se trompent, parce qu'ils l'utilisent comme temps.
Ouais, on dirait que c'est...
Comme des fois, les gens se trompent avec année-lumière, qui est bien une unité de distance, et il y a cette confusion. Et là, je sais plus exactement la réplique, mais... ils cherchent un super pilote de vaisseau, ils disent « Ah ben lui, il a réussi le rallye Monte Carlo en moins de 12 parsecs.
Ouais. »
C'est-à-dire qu'il a, voilà, sur un circuit de 50 km, lui, il l'a fait en moins de 30. Enfin, ça
oui, mais Axel, tu peux pas, c'est en 4 dimensions, c'est en 4 dimensions, donc tu sais pas trop ce que ça peut impliquer.
Non, mais pardon.
Ok.
Vous avez compris que j'aime pas Star Wars.
Bon. En tout cas, voilà, et le dernier terme de physique aussi, c'était spectre, hein. Ça, c'est un mot vraiment important, spectre, qui est quand même l'analyse de la lumière par des systèmes dispersifs, que ce soit des prismes, ou bon, maintenant on n'utilise plus de prismes, on utilise des réseaux, et pour décomposer vraiment les différentes longueurs d'onde de la lumière, ces différents constituants, et vraiment, c'est ce qui nous donne toute l'analyse chimique, en fait, des étoiles, ce qui nous permet de savoir, en fait, de quoi est constituée toute cette matière qu'on ne peut pas aller chercher, quoi. Donc c'est aussi un mot important pour l'astronomie. Voilà, pour l'instant, petite remarque sur le sujet, Sam ou...
Non, je trouve ça assez intéressant de reparcourir en fait toutes ces définitions que j'ai dû lire un jour pour écrire mon texte, mais dont je me suis assez vite départie, puisque en fait la question du coup que j'ai envie de poser, c'est est-ce que malgré... un vocabulaire du coup très précis. Est-ce que vous entendez quand même ce que j'ai essayé de dire dans ce texte ?
Ben oui, mais c'est justement pour ça, c'est-à-dire que
vraiment.
Voilà, c'est-à-dire que t'as quand même, enfin, il n'y a pas de mots d'astronomie utilisés d'une façon où on se dit qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y a à chaque fois le vocabulaire, t'as réussi en fait non seulement à jouer sur les sonorités et à l'utiliser pour exprimer ce que toi tu voulais dire, mais le mot lui-même est bien employé, quoi.
Ouais, ouais. D'arriver à jouer avec un peu à jouer avec le sens du mot, quoi,
c'est ça.
Sans le déformer, et d'arriver quand même à faire passer ton message.
Et poser des images.
Cool. Ouais.
Et c'est pour ça que je te posais la question de quel travail tu avais fait en amont par rapport à ça.
J'ai juste lu un tas de choses sur un tas de sujets que je ne maîtrise absolument pas.
Okay.
Mais en fait, jouer avec les mots, c'est y aller par instinct. Par exemple, céphéide, ouais. C'est hyper beau comme mot, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, ça sonne, il y a un truc qui me plaît, comme Almicantara ou bien d'autres. Et puis après, tu vas chercher ce que ça veut dire et puis ensuite, tu l'adaptes à ce que tu veux dire. Enfin, c'est une espèce d'aller-retour permanent, en fait.
Ouais, c'est fort. Coup, ouais. Parce que nous, c'est que des mots qu'on utilise, mais à part pour dire ce qu'ils veulent dire vraiment.
Oui, on l'utilise
leur sens premier, alors que toi, tu arrives à...
Bah, j'avoue que ce que j'aime bien avec ce texte, c'est que finalement, pour l'avoir dit sur des scènes slam, devant des gens qui n'ont pas votre appétence pour cette discipline, en fait, arrive quand même à comprendre ce que je raconte. Et c'est-à-dire que même avec un vocabulaire qui peut paraître un petit peu compliqué ou difficile d'accès, excusez-moi, je réussis à quand même et transmettre ce que je veux dire et transmettre une émotion.
Oui, c'est ça. Et du coup, je trouve qu'il y a presque une dimension de vulgarisation. En fait, on pourrait se servir de ton texte pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une céphéide ou autre chose. Ce que fait Fred là avec les mots plus... non, mais justement, sans ton travail, Fred, je ne dis pas que tu ne sers à rien dans cette émission, mais ça peut être le texte en soi... aussi un support
pédagogique.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est chouette.
C'est merci.
Je te laisse continuer.
Alors, on va continuer. Je continue avec Albedo. D'ailleurs, je souligne cette petite phrase, moi, qui est une de mes préférées du texte. Je soigne mon albedo, ma capacité à réfléchir.
Ah ouais.
L'albedo, la définition, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Donc, c'est le rapport entre, quand un objet est éclairé par une source, c'est le rapport entre l'énergie lumineuse qu'il réfléchit par rapport à l'énergie lumineuse qu'il a reçue. Donc, voilà, c'est forcément plus petit que 1. Et donc, quelque chose qui a un albédo de 1, en réalité, c'est un miroir. Quoi. Quelque chose qui a un albédo de 0, c'est un corps noir. Mmh. Voilà.
Ouais. Soigner son albédo, moi j'aime bien l'image. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai qu'elle m'avait marqué cette phrase.
Donc voilà, alors ensuite on va continuer un peu avec des noms propres. Là, il y avait, tu parles de Lagrange, donc Lagrange c'est le, en fait en astro c'est le point de Lagrange. Mmh. Et les points de Lagrange sont donc, c'est, on peut les définir pour un système gravitationnel à deux corps, type Soleil-Terre ou bien Terre-Lune. Et en fait ça va être des points où les champs gravitationnels s'annulent. S'inverse, donc des endroits où, où en fait l'attraction gravitationnelle de la Lune est la même que celle de la Terre, par exemple, si on prend ce cas-là. Alors ce qui est un peu surprenant, c'est que des points de Lagrange, en réalité, il n'y en a pas un, mais il y en a cinq pour tout système à deux corps, et qu'il y en a trois qui vont être instables et deux qui vont être stables. Alors instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on s'écarte un peu de ce point, eh bien, on va s'en éloigner. Alors un point stable, c'est que si on s'en éloigne un peu, on y est rappelé, quoi. Voilà l'idée pour les points de Lagrange. Après, on a le point vernal. Alors le point vernal, lui, qu'on appelle aussi point gamma, c'est en fait le point de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire l'intersection entre l'écliptique, donc l'écliptique c'est le plan du système solaire, et l'équateur céleste, c'est-à-dire la projection de l'équateur terrestre dans le ciel. Donc voilà, l'intersection de ces deux plans donne deux points qui sont les positions en fait sur l'orbite de la Terre des deux équinoxes. Mmh. Et donc celle qu'on définit comme point vernal, bah, c'est celle de printemps, point gamma. D'ailleurs, vernal, il n'y a pas un truc avec printemps, vernaculaire.
Ah, vernaculaire.
Ça veut dire quoi vernaculaire? Ah, j'aurais dû. Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Un nom vernaculaire, c'est le nom générique que tu donnes. Le chien, par exemple, c'est le nom vernaculaire de Canis Canis.
Ok, d'accord.
Ou enfin, de Canis le plus.
Bon, rien à voir, plus, c'est mais... pas grave. Ensuite, il y a la limite de Roche, justement. Alors, la limite de Roche, en fait, c'est pour les satellites, en fait, pour des choses qui orbitent autour de... Donc, par exemple, ben, la Lune autour de la Terre ou un satellite autour de la Terre. Et en fait, c'est la distance minimale à laquelle peut orbiter le satellite sans être disloqué par les effets de marée au corps principal, quoi. Donc, si on prend l'exemple d'une planète avec un satellite autour, un satellite artificiel... Hein, ce satellite tourne sur lui-même de toute façon, en plus de tourner autour de sa planète. Et en tournant sur lui-même, bah forcément, en fait, c'est ça les effets de marée. À chaque fois que, enfin, tout ce qui, toute la, dans la direction qui le lie à la planète, qui le relie les deux centres, il y a une déformation élastique. Et donc cette déformation se propage en fait à mesure que la planète tourne. Et donc en fait, ça fait du frottement élastique, du frottement et donc de la chaleur. Et en fait, ce calcul, il dépend de la structure interne du coup du satellite, parce qu'évidemment, s'il est constitué de corps fluides ou de corps cristallins ou de corps patati ou gazeux, et ben c'est pas la même chose pour être disloqué. Donc c'est assez compliqué. Mais par exemple, dans le cas de la distance du couple Terre-Lune, c'est 17 000 km la limite de Roche. Donc sachant que la distance Terre-Lune c'est plutôt 300-350 000, 17 000, bon, la Lune elle descendra jamais aussi bas, ou alors c'est qu'elle est vraiment en train de nous tomber dessus. Or on sait bien que c'est l'inverse, la Lune s'éloigne de nous, de je sais plus combien, quelques centimètres par an ou par siècle, je m'en rappelle jamais. Mais voilà, en tout cas la limite de Roche c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors il y avait...
Van Allen?
Hein?
Van Allen.
Il y avait, exact, les ceintures de Van Allen. Alors, la ceinture de Van Allen, ça, c'est une... Alors, rien à voir avec le guitariste, hein, ça s'écrit oui. A2LEN.
Ça, j'ai bien aimé dans ce passage du texte aussi. Mmh.
C'est en fait, la ceinture de Van Allen, c'est une zone de la magnétosphère de la Terre où on va être piégé le vent solaire, en fait. Donc, c'est une zone en forme un peu de boudin qui entoure l'équateur magnétique et dans laquelle viennent finir toutes les particules énergétiques captées au niveau des pôles par la magnétosphère. Donc, c'est ça la ceinture de Van Allen. Et elle est super chargée en particules ionisées, en particules énergétiques. Donc, il y avait ça. On avait alors aussi cette thématique-là, comètes, astéroïdes, météores, météorites. tous ces petits corps, ou en tout cas ou les traces qu'ils peuvent laisser. Comète, on rappelle que la définition d'une comète, enfin la différence entre une comète et un astéroïde, c'est bon, déjà la taille en général, une comète c'est quand même plus petit, plus petit qu'un astéroïde. On est sur des corps qui font faire quelques kilomètres. Bon, il y a des petits astéroïdes aussi, mais un astéroïde peut être beaucoup plus gros que ça. À ma connaissance, il n'y a pas de comètes qui ont des tailles démesurées. Et c'est des objets qui ont la particularité de revenir de façon périodique dans le système solaire, avec la restriction que à chaque fois qu'elles passent près du Soleil, elles perdent de la matière et que donc au bout d'un moment, en fait, elles sont juste disloquées et elles disparaissent. Un astéroïde, lui, c'est juste un gros caillou qui dérive dans l'espace. Et là, on arrive à cette distinction entre météore et météorite. Et là, j'avoue aussi que j'ai appris un truc. Parce que ce qu'on appelle météore, ce n'est pas l'objet lui-même. C'est la traînée lumineuse que va laisser une météorite qui rentre dans l'atmosphère, en fait. Donc, et là, on va en distinguer deux types. On va distinguer les étoiles filantes. Et puis, on va distinguer les bolides, qui sont plus gros. On a tous déjà observé au moins une fois où ce type d'étoile filante où en fait vous avez une traînée qui est plus large, légèrement granuleuse. Souvent vous avez aussi un déplacement plus lent du corps avec plus de temps pour traverser le ciel, avec plus des longues traînées et parfois colorées. Ça m'est arrivé d'en voir des vertes. Et ça en fait ça va s'appeler les bolides. Mais la définition historique de météore, c'est que c'était en fait tout, les Grecs appelaient l'ensemble des phénomènes visibles dans le ciel, c'était les météores. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi, c'était les météores, c'est tout ce qu'on voit, quoi. Tout ce qui se passe en fait, tous les événements. Et c'est un sens qu'on a gardé maintenant en météorologie, où ils utilisent encore ça pour dire, un météore, c'est un phénomène observé soit dans l'atmosphère, soit à la surface du globe. Donc c'est vraiment super vaste. Ça peut être une averse, tout et n'importe quoi. C'est des météores, quoi.
Je crois pas que tu aies utilisé ce mot bolide dans ton
texte. Le bolide, elle n'a pas utilisé
Qui aurait pu servir dans ce message.
Étoile filante, bolide.
Il est passé à côté du bolide.
Il est passé trop vite.
Et ben voilà, il reste encore quelques petits mots qui venaient, que j'ai mis un peu de côté, qui étaient plus des mots de géographie étendue avec azimut et ascension droite. Donc ça, Rémi, je me suis dit que tu allais pouvoir me dire dans quel sens c'était, parce que moi, je me plante tout le temps.
Ben c'est ça, c'est deux termes qui concernent le sens vertical. Azimut, c'est l'horizontal, c'est ce qui va faire le nord au point zéro, l'est à 90, le sud à 180, etc. Et l'ascension droite, c'est plus une notion dans des coordonnées équatoriales, avec une projection de l'équateur terrestre dans le ciel. Donc ça, c'est ce qui va correspondre à l'azimut. Et après, ce qui va correspondre sur Terre au parallèle, ça va être ce qui concerne l'ascension droite.
Donc voilà. En fait, c'est des termes pour établir des systèmes de coordonnées et se repérer dans le ciel. C'est aussi les axes qu'on utilise sur les montures de nos télescopes pour orienter les tubes, quoi. Écliptique, je l'ai déjà dit, le plan du système solaire, les équinoxes. T'emploie le mot périhélie. Alors là, vous allez m'aider aussi. Péri, c'est plus près ou plus loin?
C'est le plus près. Ouais.
C'est le plus près.
Sinon, c'est le moment le plus près du Soleil dans une orbite. Ouais.
Voilà. Sinon, il y a l'apélie.
Apoélie ou Aphélie.
Ouais. Et qui est là le moment où tu es le plus loin du soleil. Voilà ce que je voulais dire sur tout ça. J'en ai gardé un pour la fin. Parce que
il faut deviner lequel
en parler.
Lequel tu n'as pas expliqué dans ce cas-là.
C'est le mot silice. Et j'avais envie d'en parler parce que, en fait, silice, il occupe aussi. Une place, il permet de parler un peu de la vie. Parce que la silice, la formule de silice, c'est SiO2. En fait, la silice, c'est la forme naturelle du dioxyde de silicium, SiO2. Donc, c'est une forme, c'est pas du sable, quoi, mais c'est une petite roche cristalline comme ça. Et en fait, quand vous regardez la structure chimique du silicium, en fait, elle est complètement comparable à celle du carbone. C'est-à-dire que si vous prenez le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, en fait, le silicium, il est juste sous le carbone, ils sont dans la même colonne. Mm-hmm. Donc en fait, cette, une colonne dans la classification, ça correspond à comment s'organisent les électrons sur la couche externe en fait, de l'atome. Et du coup, c'est ça qui va permettre de savoir quel type de liaison chimique
sont possibles.
Puisqu'une liaison chimique, en fait, c'est une mise en commun d'électrons entre deux atomes. Donc, qu'est-ce qui est possible? Et donc, le carbone, pourquoi on a une chimie organique qui est aussi riche et qui permet, enfin, qui est au centre de la vie et de tout un tas de réactions? Bah, parce que justement, le carbone, il peut faire quatre liaisons. Et le silicium, c'est la même chose. Donc, il y a des gens qui avaient imaginé cette idée, bon, au lieu d'avoir d'une chimie basée sur le carbone, est-ce qu'on pourrait avoir des formes de vie basées sur le silicium? Et donc, bah, l'idée, ce serait de recracher, donc, non pas du CO2, mais du SiO2. Hein. Mmh. Donc, quand tu respires, par exemple, tu pourrais avoir toute une chimie comme ça, du silicium. Voilà, c'est un peu de l'anticipation, de la science-fiction, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce silicium...
De l'exobiologie.
Ouais, de l'exobiologie prospective.
Ouais.
Ouais. Ok.
Eh bien, merci Fred d'avoir explicité tous ces termes habilement employés par Sam dans son texte.
Merci.
Voilà, Sam, on te remercie encore d'être venu nous voir. Et puis on espère que vous passerez une bonne semaine à faire de belles observations. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
Yes. Ciao, ciao.
À bientôt.
Au revoir.